Chapitre 41.
Une bête de sang?
Répéta Richard.
Qu'est-ce que c'est?
Demanda Kara. D'instinct, elle vint se camper près de son seigneur.
Une bête qui n'est plus simplement liée au royaume des morts, comme lors de ta naissance, Richard. Ce monstre connaît le goût de ton sang. C'est la magie soustractive, elle aussi soumise au gardien qui le lui a fait découvrir. D'où sa métamorphose en bête de sang.
Et ça veut dire quoi, précisément?
Shota baissa la voix.
Que cette créature est beaucoup plus dangereuse. Je ne sais pas grand-chose sur les armes magiques inventées pendant les grandes guerres, à part qu'elles ne renoncent plus une fois qu'elles ont goûté au sang de leur proie.
J'avais compris que ce monstre ne me laisserait jamais en paix,
dit Richard, une main posée sur la garde de son épée.
Tu peux me dire comment le tuer, ou au moins le renvoyer d'où il vient? Sais-tu comment il frappe et comment il devine que...
Non,
coupa Shota.
Richard, tu traites cette bête comme si elle était une ennemie normale. Tu veux la doter d'une nature et d'un type de comportement. C'est une grossière erreur. La caractéristique frappante de ce monstre, justement, est de ne pas être définissable. Tout en lui est fluctuant, c'est pour ça qu'on ne peut pas prédire ses actes.
Tes propos n'ont aucun sens,
déclara Richard. Croisant les bras, il se demanda si Shota n'en savait pas encore moins qu'elle le prétendait.
Toute créature a des caractéristiques stables et se comporte selon un schéma qu'on peut comprendre et interpréter. La difficulté est de trouver ce schéma. Aucun être n'est totalement fluctuant.
Réfléchis un peu, Richard. Depuis le début, tu tentes de comprendre ce monstre pour mieux le vaincre. Tu penses que Jagang n'a pas anticipé ta démarche? Par le passé, ne lui as-tu pas fait 100 fois ce coup-là? L'empereur a percé à jour ta façon d'être, et pour te détruire, il a créé une arme vivante qui est dépourvue de nature. Le sorcier de vérité cherche des réponses sur les gens, les choses ou les situations. À moindre échelle, tous les êtres pensants font ça. Si la bête de sang avait une nature, ses actions suivraient une logique interne qui nous permettrait de prévoir les conditions de la prochaine attaque. Lorsqu'on peut prédire les choses, on a la possibilité d'élaborer une défense. Comprendre la bête de sang est essentiel pour s'opposer à elle. L'ennui, c'est qu'il n'y a rien à comprendre.
« Bon sang, ça n'a pas de sens !» rugit Richard.
« C'est le but de l'opération, mon garçon. Laissez l'absurdité te déconcerter afin de mieux te prendre au piège. »«
Je suis d'accord avec le seigneur Hall, » intervint Kara. « Cette créature doit avoir un schéma de comportement. Même les gens très malins qui agissent au hasard pour brouiller les pistes finissent par en avoir un. » La bête ne peut pas rôder à l'aveuglette en espérant simplement tomber sur le seigneur Hall endormi.
Afin qu'on ne puisse pas anticiper ses actes, ce monstre a été délibérément conçu pour être un enfant du chaos. Il est programmé pour attaquer et tuer Richard, mais à part ça, il ne fait montre d'aucune logique. Un jour, il frappe avec des griffes. Le lendemain, il crache du poison. Le surlendemain, c'est du feu. Et ainsi de suite. Là encore, inutile de chercher une logique à cette séquence. Le monstre ne choisit pas un plan en fonction de son analyse ou de son expérience, mais du hasard le plus total.
Richard dut reconnaître que l'explication se tenait. Jusque-là, il n'y avait eu aucune cohérence lors des attaques, au point qu'il avait douté d'être confronté à la bête dont lui avait parlé Nietzsche.
Le seigneur Hall a échappé plusieurs fois à cette horreur,
dit Kara.
Ça prouve qu'elle n'est pas invincible.
Shota eut le genre de sourire indulgent qu'on réserve d'habitude aux enfants.
Pensez à la bête de sang comme si c'était la pluie,
dit-elle d'un ton patient qui ne lui ressemblait guère.
Imaginez que vous vouliez être à l'abri d'une averse, exactement comme vous désirez échapper à la tueuse de Jagang. Précisons que votre but est de rester bien sec. Le premier jour, vous êtes à l'intérieur du château lorsqu'il commence de pleuvoir et votre but est facilement atteint. Le jour d'après, l'orage se déchaîne de l'autre côté de la vallée et là non plus vous n'aurez pas un poil de mouillé. Un autre jour, vous quittez une zone juste avant que les nuages crèvent. Un autre encore, vous marchez sur un chemin, il pleut sur votre droite et il ne tombe pas une goutte sur votre gauche. Dans tous les cas, la pluie vous a raté et vous avez atteint votre objectif. Parfois en prenant des précautions et d'autres fois par pure chance. Mais il pleut souvent et vous comprenez que vous ne demeurerez pas sec éternellement. Pour ne pas être vaincu par la pluie, vous décidez de comprendre son schéma de pensée. À cette fin, vous commencez à sonder le ciel afin de prédire le temps. Certains indices se révélant fiables, vous les utilisez et constatez que vos prévisions sont très souvent exactes. Du coup, vous optez pour la défense la plus simple, ne pas sortir chaque fois qu'il doit pleuvoir. Une remarquable victoire de l'intelligence, non?
Les yeux sans âge de la voyante se posèrent un instant sur Kara, puis se rivèrent sur Richard, qui eut le souffle coupé par l'intensité de leur éclair.
« Mais tôt ou tard, la pluie vous aura. Elle vous prendra par surprise, qui sait. Ou vous aurez prévu un orage, mais pensez à tort avoir assez de temps pour gagner un abri. Enfin, il arrivera bien un jour où vous serez sorti, certain qu'il ne tomberait pas d'eau, juste pour être surpris par l'averse du siècle. Tous ces événements ont un résultat commun. Deux jeunes gens trempés comme des soupes. Quand on parle de la bête, il suffit de dire à la place « Raide mort en un éclair ». Mieux vous prédirez le temps et plus vous serez en danger, parce que cette activité n'est pas une science exacte. Mais les victoires successives vous donneront confiance, et sans le savoir, vous prendrez de plus en plus de risques prétendument calculés. Le désir de comprendre la pluie aura signé votre perte, parce qu'elle n'a pas vraiment de schéma de comportement. On peut trouver des grandes lignes, mais elles servent surtout à forcer les jeunes présomptueux à baisser leur garde.
Richard regarda Kara, vit qu'elle était inquiète et jugea plus judicieux de ne rien dire.
La bête de sang est comme la pluie. Une adversaire qui peut surgir n'importe où et n'importe quand, sans même l'avoir prémédité.
Richard ne put garder plus longtemps le silence.
Chota, tout ce qui vit a un code de comportement et obéit à des lois naturelles. Sinon, ta thèse revient à affirmer qu'un être peut devenir sa propre contradiction. Or, c'est impossible.
Ne pas comprendre quelque chose n'autorise pas à adopter l'explication qu'on préfère.
Tu affirmes que la bête n'a pas de nature, mais c'est simplement parce que tu ne connais pas la nature en question. Reconnaître ton ignorance serait beaucoup plus honnête.
Chota eut un petit sourire et désigna le ciel.
Tu veux déterminer la nature de la pluie? Tu as sans doute raison d'un point de vue théorique, mais il n'en reste pas moins que certaines choses dépassent de très loin notre compréhension. Du coup, nous concluons que seul le hasard les régit. Le climat obéit sûrement à des règles très précises, mais elles nous échappent totalement. Donc, postuler qu'elles n'existent pas est une démarche très raisonnable. Les orages sont peut-être soumis à une logique implacable. Ne la connaissant pas, nous ne pourrons jamais éviter totalement d'être trempés jusqu'aux os. Si la bête de sang a une nature, celle-ci est hors d'atteinte de notre petit cerveau, et ça ne fait par conséquent aucune différence. Voilà tout ce que je peux dire. Ce monstre a été créé pour agir au hasard, et il se montre à la hauteur des espérances de Jagang. En l'état actuel des choses, aucun de nous ne peut vaincre cette abomination.
Intellectuellement, je ne rejette pas ta théorie, mon garçon. Le désordre n'est peut-être qu'apparent, afin de nous désorienter. Mais le mystère est hors de notre portée.
Je ne suis pas sûr de comprendre. Avoua Richard. Tu peux me donner un exemple concret?
Eh bien, par exemple, la bête n'apprend rien de ses erreurs. Elle peut utiliser trois fois la même tactique inadaptée et revenir à la quatrième avec un plan encore moins susceptible de réussir. C'est le principe même du hasard, et nous devons en rester là pour le moment. De plus, cette créature n'a pas de conscience, du moins au sens où nous entendons ce mot. En d'autres termes, on pourrait dire qu'elle n'a pas d'âme. Elle a un objectif, mais elle ne se réjouit pas d'avoir réussi.
En cas de désastre, elle n'est pas furieuse. La pitié, l'empathie, la curiosité, l'enthousiasme ou l'angoisse n'existent pas pour elle. Sa mission est de tuer Richard Rale, et elle recourt à ses innombrables aptitudes pour l'accomplir. Mais fondamentalement, toute cette affaire ne l'intéresse pas. Un oiseau qui vole vers un buisson lesté de baies ou un serpent qui suit une souris dans son trou ont envie de réussir. Ils veulent se nourrir pour prolonger leur vie. La bête n'a pas ce genre de préoccupation. Dépourvue d'esprit, elle avance inexorablement vers sa proie avec la pulsion de la détruire, comme la pluie si quelqu'un lui donnait la mission de mouiller Richard. Quand elle échoue, ça ne la dérange pas, et elle ne s'énerve pas si une sécheresse la ralentit. Face à un obstacle, elle ne redouble pas d'efforts. Non, à la première occasion, elle essaie de nouveau, et c'est tout. Enfin, quand elle réussit, ça ne lui fait aucun plaisir. Cette créature est irrationnelle dans cette mesure-là. Mais surtout, Richard, ne la sous-estime pas. Elle est vicieuse, féroce, et d'une cruauté sans limite.
« Je ne comprends toujours pas, » dit Richard. « Comment est-ce possible? Si c'est une bête, elle doit être animée par quelque chose, son instinct par exemple. »
« Son instinct, c'est le besoin de te tuer. Elle est conçue pour agir au hasard afin de te désarmer. À force d'essuyer des déconvenues, Jagang t'a envoyé une adversaire qui se dérobera à tes assauts au lieu d'essayer de te dominer par la force. »
« Si la bête a été créée pour me tuer, elle a donc bien un code de comportement. »«
Exact. Mais comme il est aléatoire, ça ne nous avance à rien. Impossible de prévoir quand, comment et où cet adversaire tentera de te frapper. Elle agit au hasard, et tu dois mesurer à quel point cette tactique est dangereuse pour toi. Si tu sais qu'une lance te menace, tu peux te munir d'un bouclier. » Quand un archer te traque, tu as la possibilité d'envoyer une armée entière le débusquer. Enfin, lorsqu'un loup te piste, tu as la possibilité de poser des pièges ou de ne pas sortir de chez toi. La bête de sang n'a aucune méthode favorite lorsqu'il est question d'assassinat. Du coup, il devient très difficile d'organiser ta défense. Un jour donné, le monstre peut tailler en pièces les 1000 soldats chargés de te protéger. Le lendemain, il est capable de battre timidement en retraite face à un gamin qui gambade devant toi. On ne peut rien prédire des actes de cette créature. Et c'est en partie pour ça qu'elle est si terrifiante. On ne sait jamais d'où viendra le coup fatal. La force de cette bête est de n'avoir aucune caractéristique stable. Elle peut être à la fois forte et faible, rapide et lente. Bref, elle change sans cesse. Mais elle peut aussi rester un long moment la même ou revenir à une phase antérieure de son chaos perpétuel. Après sa naissance, une seule chose importait. La première fois que tu utiliserais ton don. C'est à ce moment-là qu'elle s'est focalisée sur sa cible. Depuis, impossible d'anticiper ses actes ou de percer à jour ses plans inexistants. Une seule certitude demeure. La bête te traque, et elle continuera jusqu'à ce qu'elle t'ait eu. Elle peut attaquer plusieurs fois dans la même journée, puis ne plus se manifester pendant un mois, voire un an. Tout ce que nous savons, c'est qu'elle n'abandonnera jamais.
Richard se demanda quelle part de vérité objective contenait le discours de Shota. La connaissant bien, il savait qu'elle devait broder autour de faits authentiques, mais dans quelle proportion ?
« Vous êtes une voyante, » rappela Kara. « Je suis sûr que vous pouvez aider le Seigneur Rale à se défendre. »«
Mon don me permet de voir comment les événements naviguent sur l'immense fleuve du temps. En d'autres termes, je peux déterminer quel cap ils prennent. La bête de sang ne sachant pas elle-même ce qu'elle fera dans la minute qui suit, elle échappe totalement à mon pouvoir. En un sens, la voyance est intimement liée aux prophéties. » Et elle est désarmée face à tout ce qui n'est pas prévisible. Comme les morts de Sith l'ont probablement découvert, Richard aussi est rétif à tout ce qui est prédiction ou oracle.
Ça ne facilite pas la tâche de ses protecteurs, et lorsqu'il affronte une créature également rétive à la divination, il est impossible de lui conseiller ce qu'il doit faire ou ne pas faire.
Consulter des recueils de prophéties ne servirait à rien ? Demanda Richard.
Les prédictions se fondent sur une logique et la bête n'en a aucune. Les grimoires sont aussi impuissants que moi face à un monstre de ce type. Ils peuvent prédire qu'un homme sera blessé par un carreau au cours d'une journée pluvieuse, mais ne leur demande pas la liste de tous les jours de pluie ou de tous les hommes blessés par un carreau depuis le début des temps. Sans concordance ni logique, il est impossible de prévoir quoi que ce soit. Sinon qu'il pleuvra un jour ou l'autre et que quelqu'un sera mouillé.
Richard eut un petit sourire. C'est la façon dont je vois les prophéties, même lorsqu'il y a concordance et logique. Les grimoires nous apprennent que le soleil se lèvera demain et c'est à peu près tout. Richard plissa soudain le front. Si j'ai bien compris, tu ne peux rien me dire sur la bête parce qu'elle échappe à ton pouvoir de divination. Dans ce cas, comment peux-tu en savoir si long à son sujet ?
Qui a jamais prétendu que je n'avais pas d'autres cordes à mon arc ?
Éluda énigmatiquement Chota. Richard n'insista pas, certain que ça n'aurait servi à rien. Donc, tu ne peux rien me dire de plus ?
Il n'y a rien de plus à dire, Richard. Si la bête continue d'exister, elle te traquera jusqu'à ce qu'elle t'ait tué. Mais je ne peux même pas savoir quand tu mourras, puisque la créature échappe aux prédictions. Tu peux rendre le dernier soupir aujourd'hui ou mourir de vieillesse avant qu'elle t'ait trouvé.
Voilà qui me laisse un espoir.
Si j'étais toi, je ne m'y accrocherais pas trop. Tant que tu vivras, la bête te traquera, attirée par le sang qui coule dans tes veines.
C'est mon sang qui lui permet de me localiser ? Comme les chiens à cœur qui repèrent une proie en captant ses pulsations cardiaques ?
Ne pousse pas si loin la comparaison. C'est une façon de parler. La bête a goûté ton sang d'une certaine manière. Mais ce n'est pas ton fluide vital qui importe vraiment pour elle. L'essentiel, c'est ce qu'elle a senti en cette occasion. Ton ascendance. Elle connaissait ton existence et te traquait déjà. Dès que tu as utilisé ton don, je veux dire la première fois après sa venue au monde, vous avez été liés jusqu'à la fin des temps. Dans ton sang, la bête a eu son premier contact avec le don, et c'est ça qui a déclenché sa métamorphose.
Des questions plein la tête, Richard ne savait trop laquelle poser en premier. Finalement, il se décida pour celle qui semblait la plus simple. Pourquoi a-t-elle un rapport étroit avec le royaume des morts ? Y a-t-il une logique là-dedans ?
Quelques éléments de cohérence, en tout cas. Le royaume des morts est éternel. En conséquence, le temps n'y a pas de sens. Comme je te l'ai dit, il n'en a pas non plus pour la bête. Elle n'est pas pressée de te tuer. Il faut que tu le comprennes. Si elle avait le sens de l'urgence, elle agirait avec une constance qui deviendrait vite un code de comportement. Pour elle, finir le travail aujourd'hui, demain ou dans un siècle est parfaitement égal. Comme si tous les jours se ressemblaient, si tu vois ce que je veux dire. Ou comme si 1000 ans n'étaient en fait qu'une seule et même journée. Quand on n'a aucune notion du temps, pourquoi aurait-on besoin d'une nature ou d'un code de comportement ? Le passage du temps confère du poids et de l'intensité aux créatures vivantes. Quand on vit dans une réalité où les heures succèdent aux heures, on établit des priorités en fonction de critères objectifs. C'est pour ça, par exemple, qu'on se hâte de dresser un camp avant que la nuit tombe, et qu'on met des défenses en place avant et pas après l'attaque d'un ennemi. Sans le temps, comment organiserait-on ses actions ? Pense aussi à une femme qui veut avoir des enfants avant qu'il soit trop tard. Si elle n'avait pas conscience de son âge, comment saurait-elle que le moment est venu ? Le temps, Richard, est un des burins du sculpteur qui grave notre vie dans le marbre. Notre nature est définie par les tourments que nous inflige le passage des ans et l'inexorable approche de la mort. Tu sais maintenant ce que j'entends par urgence. Même un papillon, lorsqu'il sort de son cocon pour vivre une seule journée, est pressé par le temps. Car s'il ne trouve pas un partenaire pour s'unir, et s'il ne pond pas des œufs, son espèce entière risque d'être rayée de la surface du monde. La bête n'a pas conscience du temps. Son schéma de pensée est influencé par l'éternité du royaume des morts, la négation radicale de la notion même de création, puisque le domaine du gardien est l'antithèse de la vie. Le conflit éternel entre la création et l'entropie produit la force qui anime une bête de sang et lui confère cette versatilité dont je parlais tout à l'heure. Quand Nietzsche a utilisé la magie soustractive pour éliminer le sang qui obstruait un de tes poumons, la bête a senti le goût du fluide vital de sa proie. Pour être plus précise, elle a pris la véritable mesure de ta magie. Dans ton sang coulent les deux formes du don. La bête est conçue pour te reconnaître par l'intermédiaire de ton essence, la magie, et cela lui permet de se jouer d'obstacles bêtement matériels. Mais pour se lier à toi, elle avait besoin que tu utilises ton don. Ainsi, elle allait pouvoir te traquer sans relâche. Et quand elle a effectivement eu le goût de ton sang dans la bouche, métaphoriquement parlant, elle est devenue apte à te connaître d'une manière nouvelle et différente. Ce monstre a eu sur la langue la saveur de la magie hors du commun qui est en toi. Le mélange entre le pouvoir bienveillant de Zed et la magie noire dévastatrice de Darkenral, c'est ça qui l'a transformé. Désormais, elle ne ressemble plus au monstre basique imaginé par les sbires de Jagang. Souviens-toi, Richard, ce sont les éléments magiques qu'elle reconnaît dans ton sang. Si tu lances un sort, tu attireras ta propre mort. Voilà pourquoi cette bête est plus dangereuse que toutes les autres. Où que tu sois en ce monde, elle saura que tu invoques ton don et elle accourra pour ne pas rater la curée. Chaque sorcier a une signature magique unique. Depuis peu, la bête connaît la tienne. Voilà pourquoi tu dois t'abstenir de recourir à ton pouvoir. Les sœurs de l'obscurité qui ont créé la bête auraient aimé utiliser ton sang dès le début. Mais elles n'ont pas pu s'en procurer. Elles ont lié le monstre à ta magie, mais sans fluide vital, c'était une connexion trop faible pour être vraiment efficace. Sans le vouloir, Nietzsche a donné à la bête ce qui lui manquait encore. Elle a agi pour te sauver la vie et elle n'avait pas le choix, mais c'est quand même elle la responsable. À partir de là, chaque utilisation de ton don attirait encore plus facilement la bête de sang. Dans cette mesure, on peut dire que Nietzsche a été fidèle à son serment de sœur de l'obscurité.
Dévasté par ce discours, Richard tenta de trouver une objection qui tienne la route. Shota devait se tromper. L'armure du monstre qu'elle venait de décrire avait sûrement un point faible. « La bête peut attaquer quand je ne me sers pas de mon don, » dit-il. « Le matin où elle a tissé le cocon, je ne jetais pas de sort. » Shota posa sur le sourcier le genre de regard qui le faisait se sentir tout petit.
« Tu utilisais ton don ce matin-là ? »
« Non, je dormais. Comment aurais-je pu ?»
Le sourcier n'alla pas plus loin. Il venait de se souvenir. En se réveillant, alors qu'il revivait la disparition de Kalan, il tenait son épée et l'avait à demi dégainée. La magie de l'arme s'infiltrait en lui et...
« C'était la magie de l'épée, » dit-il. « Je tenais mon arme et mon don restait assoupi. »«
Non, tu te trompes. Quand tu éveilles la magie de l'épée, elle se combine à la tienne. Et c'est ça qui alerte la bête de sang. Le pouvoir de l'arme est en toi désormais. Combattre avec ta lame risque de faire venir la bête. »
Richard eut le sentiment qu'un piège mortel se refermait sur lui, lui interdisant toute réaction. Quoi qu'il fasse, il était coincé. Le matin déjà, il s'était réveillé avec cette impression, et les événements en cours la confirmaient.
« J'ai besoin de mon arme. Shota, je contrôle mal mon don. L'épée de vérité est la seule chose sur laquelle je peux compter. »
« Dans certaines circonstances, j'admets volontiers qu'elle peut te sauver. Mais la bête n'a pas de nature, ne l'oublie pas. Et elle vient du royaume des morts. » À cause de ces éléments, tu croiras parfois que ton arme te protège alors que c'est faux. Ne commets pas l'erreur de penser que tu apprendras à faire la distinction entre ces moments. La bête est imprévisible, je l'ai dit 20 fois, et il y aura donc des occasions où ton arme ne te sera d'aucun secours. Méfie-toi de l'épée, Richard, car en la dégainant, tu risques d'attirer la bête. Cette créature te poursuit sans cesse, et elle est susceptible d'attaquer n'importe quand. Même lorsque tu utilises ton don, sache que le risque augmente considérablement, car le don aiguise l'appétit et la fureur du monstre.
Richard s'avisa qu'il serrait très fort la poignée de son arme. Réagissant à son appel, la colère et la magie de la lame commençaient déjà à s'insinuer en lui. Il retira sa main, comme s'il venait de se brûler. Avait-il invoqué la bête sans le vouloir? Allait-il devoir se surveiller en permanence?
« Il y a autre chose, »
dit Chota en croisant les mains sur son giron.
« Super, quoi encore ?»«
Richard, je n'ai pas créé ce monstre. » Si tu me hais parce que je te dis la vérité, demande-moi de me taire et je t'obéirai sur le champ.
Désolé, Chota. Je sais que tu n'y es pour rien, mais ça commence à faire beaucoup, tout ça. Continue, je t'en prie. Que voulais-tu ajouter?
Si tu recours à la magie, n'importe laquelle, la bête le saura. Puisqu'elle agit au hasard, il se peut qu'elle n'en profite pas tout de suite, voire pas du tout. Mais il ne faudra pas baisser ta garde, parce que ça pourrait être très différent la fois suivante. Ne te montre jamais trop confiant, car ça risquerait de signer ta perte.
Tu me l'as déjà dit.
Je sais, mais tu n'as pas encore vraiment compris cet avertissement. Mets-toi dans la tête que toute utilisation de la magie permettra à la bête de sentir ton sang.
Ça aussi, tu l'as déjà dit.
Je parle de toutes les formes de magie.
Chota tendit un index et tapota la tempe du sorcier.
« Réfléchis, mon garçon. »
Richard, ne répondant pas, la voyante perdit patience.
« Cette limitation inclut les prophéties. »«
Que veux-tu dire ?»«
Les prédictions sont écrites par des sorciers dotés d'un pouvoir spécial. Un profane, quand il lit ces textes, ne voit que des mots obscurs. Même les sœurs de la lumière, qui se prennent pour les gardiennes des grimoires et des recueils, ne sont pas capables de distinguer la vérité. Toi, tu es un sorcier de guerre. En tant que tel, tu disposes d'autres pouvoirs, pour l'instant latents, dont celui de déchiffrer pour de bon les prophéties. Comprends-tu maintenant combien il te serait facile d'invoquer la magie sans t'en apercevoir? Que tu manies ton arme, soignes quelqu'un ou invoques la foudre n'importe pas. Tout cela risque d'attirer la bête, parce qu'elle ne fera pas la distinction entre un sort mineur et une grande invocation. Pour elle, le don est le don, et voilà tout.
Dois-je comprendre que guérir quelqu'un ou dégainer mon épée peut suffire à attirer la bête?
Exactement. Et elle n'aura pas besoin de longtemps pour te trouver. Étant liée au royaume des morts, elle n'appartient qu'à demi à ce monde. Pour elle, la distance n'est pas un problème et aucun obstacle ne l'arrête. Elle n'échappe pas totalement aux lois de notre univers, mais elle ne se fatigue jamais, ne perd pas le contrôle de ses nerfs, n'est pas découragée et ne se montre en aucun cas impatiente. Te servir de ton don ne la poussera pas systématiquement à agir, c'est déjà établi. Personne ne peut anticiper les actes de ton adversaire, mais recourir à la magie augmente ses chances et diminue les tiennes. C'est tout ce qu'on peut dire, hélas.
Une cataracte de bonnes nouvelles, marmonna Richard.
Sur ces mots, il se mit à faire nerveusement les 100 pas.
« Comment le seigneur Hal peut-il tuer cette créature ?»
demanda Kara.
« Elle n'est pas vivante. Comment tuer un rocher qui nous tombe dessus ou une averse qui nous trempe jusqu'aux os ?»«
Ce monstre doit bien avoir peur de quelque chose, » insista Kara.
« Seuls les êtres vivants connaissent la peur. »
« Alors, elle déteste sûrement quelque chose. »«
Que veux-tu dire ?»«
Eh bien, l'eau, le feu ou la lumière, un élément qu'elle n'aime pas et qui la fait fuir. »«
Un jour, il peut s'agir de l'eau, mais le lendemain, elle se cachera dans un marécage, en bondira pour saisir la jambe de Richard et l'entraînera au fond pour le noyer. »« Pour elle, notre monde est un territoire étranger qui ne l'affecte pas vraiment. »
Où les sœurs de l'obscurité ont-elles appris à donner la vie à un monstre pareil ?
Demanda Richard.
Les connaissances de base ont été découvertes par Jagang, dans de très vieux grimoires qui remontent aux grandes guerres. Il est passionné par les armes magiques de l'ancien temps. Cela dit, je pense qu'il a modifié la recette afin de mieux viser sa cible principale, toi, mon garçon. Ensuite, les sœurs de l'obscurité ne furent que des exécutantes. Avec l'aide de la magie soustractive, en plus du Han volé à des sorciers, elles ont arraché leur âme à des détenteurs du don. Ainsi, la bête est dotée de toutes les caractéristiques que pouvait désirer Jagang. Cette arme est supérieure à toutes celles qui nous ont été opposées. L'empereur est son vrai père, et nous devons l'arrêter avant qu'il mette au monde d'autres horreurs.
Je suis totalement d'accord, marmonna Richard.
Mais tu ne l'arrêteras pas si tu cours après des fantômes.
Et toi, tu ne peux pas m'asséner tout ça sans ajouter une ou deux choses qui m'aideraient un peu?
Tu es venu m'interroger. T'ai-je demandé de le faire? De plus, je t'ai déjà aidé en te disant ce que je sais. Grâce à ces informations, tu as une excellente chance de vivre un jour ou deux de plus.
Richard en avait assez entendu. La bête n'avait peut-être pas de nature, mais cette particularité, en y réfléchissant bien, revenait à avoir une sorte de nature. Shota avait sans doute raison sur l'impossibilité de prédire les actes de cet adversaire, mais ça n'impliquait pas automatiquement une absence de code de comportement. Cela dit, ce n'était pas le moment de couper les cheveux en quatre. Plus tard, les détails de ce type feraient peut-être une énorme différence. Pour l'instant, il ne comptait pas. Les propos de Shota confirmaient ceux de Nietzsche. Et même si elle connaissait plus d'éléments, la voyante n'avait pas proposé plus de solutions que l'ami de Richard. À vrai dire, Shota semblait s'être donné beaucoup de mal pour convaincre ses interlocuteurs que la situation était désespérée. S'avisant qu'il allait poser la main sur le pommeau de son épée, Richard se ravisa et se passa plutôt les doigts dans les cheveux. Il était à bout de ressources apparemment.
« Donc je ne peux rien faire pour me protéger. »«
Je n'ai jamais dit ça. »«
Quoi ? Il y aurait un moyen ?»«
Je crois, oui. »«
Lequel ?» Shota croisa les mains, baissa les yeux, réfléchit puis releva la tête pour croiser le regard du sourcier.
« Restez ici. »
Du coin de l'œil, Richard vit Samuel sursauter. « Comment ça, rester ici ?»
Eh bien, te placer sous ma protection.
Vous pouvez assurer la sécurité du seigneur Ral? Demanda Kara.
Il y a de très bonnes chances.
Dans ce cas, venez avec nous. Voilà qui résoudrait le problème.
Richard détesta d'emblée l'idée de la mort de Sith.
Impossible,
répondit Shota.
Hors de cette vallée, je serais impuissante contre la bête.
Et moi, je ne peux pas rester. Dit Richard d'un ton qu'il espéra détacher.
Pourquoi pas ?
Demanda la voyante. Elle prit gentiment le bras du sourcier.
Tu crois que tu serais malheureux ici ?
Ce n'est pas ce que je voulais dire.
Dans ce cas, reste.
Combien de temps ?
Shota serra un peu plus fort le bras de Richard, comme si elle avait peur de sa réaction une fois qu'elle aurait répondu.
Pour toujours.
Richard eut l'impression d'être en train de traverser un étang gelé. La couche de glace étant trop mince, le moindre faux pas risquait de provoquer une catastrophe. La chair de poule lui annonçant qu'il était en danger, il se demanda s'il n'aurait pas préféré affronter la bête plutôt que Shota.
« Pour toujours, dis-tu ? Hélas, ce n'est pas possible. Tu sais que des gens comptent sur moi. Tout à l'heure, tu me l'as même rappelé. »
Tu n'es pas esclave des autres, sous prétexte qu'ils ont besoin de toi. C'est ta vie, Richard. Reste, et tu la garderas.
L'air soupçonneuse, Kara se tapota la poitrine.
Et moi, dans tout ça ?
Shota répondit sans même daigner regarder la mort de Sith.
Dans cette vallée, il n'y a pas de place pour de femmes.
Se souvenant du conseil de Richard au sujet de la prudence, Kara ne dit rien, une retenue hors du commun chez elle.
« Reste !»
murmura Shota. Richard vit passer dans le regard de la voyante une vulnérabilité qu'il n'aurait pas cru possible.
Toujours du coin de l'œil, il remarqua l'expression haineuse de Samuel.
« Et ton compagnon ? » demanda-t-il.
Chota ne tenta pas d'éluder la question.
« Dans cette vallée, il n'y a pas de place pour deux sourciers. »«
Chota,
reste !»
répéta la voyante. À la fois une proposition et un ultimatum, avant que le sourcier ait franchi une ligne rouge qu'il ne pourrait plus jamais retraverser.
« Et la bête de sang ? Tu as affirmé ne pas pouvoir prédire ses actes. Comment peux-tu savoir qu'elle ne me tuera pas ici ?»«
Je me connais, Richard, et j'ai conscience de mon pouvoir comme de mes limites. Dans la vallée, je suis pratiquement certaine de pouvoir te protéger. En revanche, si tu t'en vas, personne au monde ne te sauvera. C'est ta seule chance. » « Reste, Richard. Je t'en prie, ne t'en va pas. »«
Rester pour toujours ?»«
Oui, pour toujours. »
Des larmes perlèrent aux paupières de Chota.
« Je m'occuperai de ton bien-être, et tu ne regretteras jamais d'avoir laissé derrière toi le reste du monde. »
Richard comprit qu'il n'avait plus une voyante devant lui, mais un être humain qui lui ouvrait son cœur au mépris de tous les risques. Lorsqu'elle cessait de la dissimuler, la solitude de Chota paraissait tellement affreuse. Quand on crevait d'angoisse de perdre sa bien-aimée et de finir seul comme Richard, il était impossible de se montrer insensible face à une telle détresse. Et pourtant, il fallait traverser le lac gelé et continuer son chemin. Chota, c'est la chose la plus gentille que tu m'aies jamais dite. Savoir que tu me respectes assez pour me proposer, ça me touche à un point que tu ne mesures pas. Sache que je te respecte aussi, et beaucoup plus que tu ne le crois, puisque je me suis tourné vers toi quand j'avais besoin de réponse. J'apprécie ton offre, mais j'ai peur de devoir la décliner. La froideur qui envahit le visage de Chota fit frissonner Richard, comme si la glace venait de se briser sous ses pieds. Sans un mot, la voyante se détourna et s'éloigna.